إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Premièrement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette d'assister à ce type d'assises qui sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens dans beaucoup de pays n'ont pas l'occasion de se réunir comme ça pour lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en tirer des leçons. Parfois même, il y a certains parmi nos frères en islam qui ne peuvent même pas faire des réunions pour discuter des choses faisant partie de leur foi ou pour apprendre les bases de leur religion. C'est pour cela, en vérité, le musulman, il doit savoir saisir l'instant présent, car il ne sait pas si demain il aura encore l'occasion de s'asseoir dans ce type d'assise. Car il ne sait pas si demain il aura encore l'occasion de s'asseoir dans ce type d'assise. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à profiter de la vie avant la mort, de la santé avant la maladie, de la jeunesse avant la vieillesse et du temps libre avant d'être occupé. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'mah al-'azima. Le plus grand bienfait qu'Allah donne à une personne, c'est ni'matul islam. Et l'islam, c'est la soumission à Allah tabarak wa ta'ala en lui vouant le tawhid. Et une personne qui n'apprend pas l'islam, il ne peut pas pratiquer l'islam. Si les assises de science ne sont plus existantes, la religion de l'islam va partir de la vie des gens. Et ils ne porteront de l'islam que le nom, car ils n'en connaîtront pas ni les croyances, ni les pratiques. Ce sera pour eux qu'une culture qu'ils ont héritée de leur pays ou de leurs grands-parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à la fin des temps, tellement l'ignorance sera répandue, qu'il y aura des gens qui connaîtront que dire Allah, Allah. Ils ne connaîtront rien de l'islam. Aucune pratique, aucune science, tellement l'ignorance sera répandue. Donc nous continuons par la grâce d'Allah, comme ont fait nos prédécesseurs, et comme ont fait avant eux leurs prédécesseurs, jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme ont fait tous les suiveurs des prophètes à tous les temps, de transmettre et d'enseigner l'héritage prophétique. Cet héritage prophétique, ce n'est pas de l'argent, car l'argent ne l'emmène pas avec nous après la mort. L'argent ne fait pas le bonheur sur cette terre. Cet héritage prophétique, ce ne sont pas des terres. Ce ne sont pas des vêtements. Cet héritage prophétique, c'est la science religieuse. Et c'est pour cela que les savants sont les héritiers des prophètes. C'est pour cela que les savants sont les héritiers des prophètes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont porté son héritage. Ils l'ont pris de leur professeur, de leur maître, qui eux-mêmes l'ont pris de leur maître, jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est de notre devoir de perpétuer cette tradition, cette bonne tradition, de transmettre l'héritage prophétique, autant dans la croyance, dans le dogme, qui est la base de l'islam, que dans le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la deuxième révélation qu'Allah a préservée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas qu'il m'a été donné le Coran et une autre chose semblable, pareille, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis pour étudier ensemble les 40 hadiths de Al-Hafidh Al-Nawawi rahimahullah. Nous en sommes au 20e hadith parmi ces hadiths. Al-Hadith Al-Ishroun. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Donc le 20e hadith, le hadith de Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore, il y a celle-ci. Si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Rapporté par le Bukhari. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les antiques paroles prophétiques, c'est-à-dire ce qui est resté comme héritage de tous les prophètes. Tous les prophètes ont dit cette parole, tellement elle a été répétée que c'est devenu une parole connue chez les gens, que c'est une parole antique prophétique. Et qui a été préservée ainsi. Et qui a été répétée génération après génération. Donc c'est pour montrer que c'est une parole sur laquelle tous les prophètes étaient. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la transmettant, il l'a lui-même approuvé et répété, comme tous les prophètes avant lui, ou les prophètes avant lui. Quelle est cette parole ? Si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. On peut comprendre ce hadith de deux manières. La première manière, de manière apparente, que si tu es amené à faire un acte ou à dire une parole, pour l'acte, quand tu vas le faire, ou cette parole, quand tu vas la prononcer, tu ne sens pas de gêne et de pudeur vis-à-vis d'Allah, ni vis-à-vis des gens. Alors fais-le. C'est que cet acte est bon. Fais-le. La deuxième manière de le comprendre, c'est une mise en garde. Qui veut dire par là que la seule personne qui fait les choses sans réfléchir et qui dit ce qu'il veut, c'est celui qui n'a pas de pudeur. C'est celui qui n'a pas de pudeur. Effectivement, une personne qui a de la pudeur envers Allah, envers ses anges, envers les croyants, envers les gens, il ne se permet pas de faire ce qu'il veut. Il ne se permet pas de dire ce qu'il veut. Cette pudeur l'empêche de faire et de dire des mauvaises choses. Mais celui qui n'a pas de pudeur, et comme on sait, la pudeur fait partie de la foi. Al-haya'u min al-iman. C'est-à-dire que sa foi est très faible. Moins elle a de pudeur, et plus sa foi est faible. Et d'ailleurs, la pudeur n'amène que du bien. La pudeur n'amène que du bien. Cette pudeur, elle est vraie chez l'homme comme chez la femme. Elle se manifeste dans tous les actes que la personne fait ou délaisse, et les paroles que la personne fait et délaisse. Et subhanallah, combien aujourd'hui on aurait besoin de cette pudeur. Combien de personnes parlent sur la religion d'Allah sans pudeur? Ils mentent sur Allah. Ils mentent sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils déforment la religion d'Allah sans pudeur. Sans avoir honte qu'Allah les voit, Allah les entend. Que leurs paroles sont inscrites par les anges. Qu'ils vont rendre des comptes sur ces paroles. Sans pudeur. Des méfaits que ces mauvaises paroles peuvent avoir sur la communauté. De même les actes. Combien de gens sans pudeur font des choses graves, maintenant se vantent même de leurs péchés et de leurs manquements, sans pudeur. Tout fils d'Adam est pécheur. Mais le croyant, il le regrette, il le cache. Et il s'en repent. Le pervers, il s'en vante, il le montre et il y appelle. Où est passée cette pudeur maintenant avec les réseaux sociaux, où les gens se montrent du matin au soir dans le péché? Où les femmes se montrent à moitié dénudées sur les réseaux sociaux du matin au soir? Où est cette pudeur? Où les gens dévoilent les secrets intimes de la famille, de la maison? Où est la pudeur? C'est seulement la course à celui qui va gagner le plus de notoriété au prix de vendre sa religion, à vil prix. Alors, cette parole s'applique et elle est vraiment très appropriée à cette époque. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Effectivement, si ces gens, ils avaient la pudeur, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Mais le pire, c'est que Shaytan les attire pas à pas. Pas à pas. Ce n'est pas tout de suite qu'il lui dit « Fais telle et telle chose honteuse aux yeux des gens. » Non. D'abord, il lui dit « Tiens, montre juste quelques parties de ta maison. » Ah, après, tiens, montre juste tes baskets. Ah, après, tiens, montre ton pantalon. Ah tiens, c'est pas grave, juste montre ton visage une fois. Ah ouais, mais là avec le voile on ne voit pas bien, enlève un peu le voile, etc. Sallallahu salam à toi la rafia. Le prochain hadith, al-hadith al-hadi wal-ishroun, an Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. الحديث de Abi Amr, et il a été dit Abi Amra, Sufyan ibn Abdillah, radiallahu anhu, qui a dit, ô envoyé d'Allah, dis-moi en islam une parole sur laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi après ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, dis, j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur le chemin de la droiture, de la constance. Dis, j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur le chemin de la droiture et la constance. Ce hadith qui est apporté par l'imam Muslim. Al-istiqama, la droiture, c'est le fait de toujours chercher à être sur le droit chemin. C'est le fait de faire les efforts et de toujours chercher à être et à rester sur le droit chemin. Quel est le droit chemin ? C'est l'islam, la voie de l'islam. Quelle est la voie de l'islam ? C'est ce avec quoi est venu le Coran, qui est la parole d'Allah, et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la deuxième révélation, la révélation d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans ses paroles, dans ses actes, dans ses approbations, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'istiqama, la droiture, c'est le fait d'être constant sur les rites de l'islam. Les rites de l'islam. Que ce soit de manière apparente, dans les choses apparentes ou dans les choses cachées. Dans les états apparents ou dans les états cachés. En public ou en privé. Dans les actes liés au corps ou dans les états liés au cœur. Ou dans les paroles prononcées par la langue. Et ceci nécessite bien sûr l'apprentissage de la religion de l'islam. Car sans apprentissage, la personne ne peut pas savoir comment il va être constant. Même en voulant bien faire. Le prochain hadith, le hadith 22, عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم وقال النووي ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Ce hadith qui est le 22e hadith, le hadith de Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, qui rapporte ceci. Un homme interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en lui disant, vois-tu si j'accomplis les prières obligatoires prescrites et si je jeûne le mois de Ramadan et je rends licite ce qui est licite, et je rends illicite ce qui est illicite, sans rien ajouter à cela, entrerai-je au paradis ? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, oui. De lui répondre, oui. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah a dit, en expliquant, en rendant licite ce qui est illicite, c'est-à-dire en le délaissant, et en rendant licite ce qui est licite, c'est-à-dire en le faisant tout en croyant que c'est licite. Dans ce hadith, on voit qu'une personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il s'en tenait bien sûr, après son entrée à l'islam, après les deux attestations de foi, à faire la salat, à jeûner le mois de Ramadan, à rendre licite le licite et à rendre l'illicite l'illicite, est-ce qu'il entrerait au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par l'affirmative. Quelqu'un se demanderait, mais s'il manque pas mal d'obligations de l'islam ou de piliers de l'islam, n'est-ce pas? La réponse à cela est en plusieurs points. Premier point, il manque dans les piliers de l'islam deux piliers. La zakat et le hajj, n'est-ce pas? La shahada, il est musulman, on ne le compte pas. S'il a demandé cette question, c'est qu'il a fait la shahada. Donc il est déjà musulman. Et il a demandé sur salat et ramadan. Et il n'a pas rajouté la zakat et le hajj. Pourquoi? Qui font partie des piliers de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas rajouté la zakat et le hajj non plus. Il a accepté de lui ce qu'il a dit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu de son état qu'il était pauvre. La personne qui est pauvre, il n'a pas de zakat et de hajj à faire. Donc, il a compris que quand il a posé la question, il parlait de son état à lui. Du fait qu'il n'a pas les moyens, il ne peut pas donner la zakat et il ne peut pas faire le hajj. Et on sait très bien que la zakat et le hajj sont conditionnés par les moyens financiers. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi la zakat et le hajj ne sont pas cités ici dans les cinq piliers de l'islam. Puis, il a dit, il ne s'est pas suffi de dire « je prie et je jeûne ». Il a ajouté deux points essentiels. Je rends halal le halal. Et je rends haram le haram. Et l'explication que le Hafiz al-Nawawi a donnée, elle est manquante comme certains savants ont expliqué. Je rends halal le halal, ça veut dire je crois en sa licéité. Que je le pratique ou non. Car ce qui est licite, il n'est pas obligatoire d'y toucher. Par exemple, est-ce que c'est obligatoire de manger des haricots verts? On dit celui qui ne mange pas d'haricots verts, il a fait des péchés. Non, c'est licite. Toutes les choses licites, on doit croire en leur licéité. Et quand on les applique, ou quand on les pratique, ou quand on les mange pour les choses... On les mange en croyant sa licéité. Sinon, on ne les aurait pas mangés, on ne les aurait pas pratiqués, n'est-ce pas? Donc, pour le licite, il suffit d'y croire et d'affirmer. Et si ceci revient à affirmer tout ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tout ce que Allah et son prophète ont rendu licite, j'y crois, je le rends licite, je le rends véridique. Et tout ce que Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont décrété comme illicite, je le considère comme illicite et je le délaisse. Pour l'illicite, il y a l'obligation de le délaisser en même temps que d'y croire. Donc, on résume cette personne qui est musulmane, qui a fait la double attestation de foi, qui n'a pas les moyens de faire la zakat et le hajj, s'il se tient correctement à ses prières obligatoires, à son jeûne obligatoire, qu'il rend véridique tout ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit dans leur livre et qui ont rendu licite, il le rend licite. Et qui s'éloigne de tout ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rendu illicite et il croit et il confirme que c'est illicite. Alors ceci lui suffira pour entrer au paradis. Ceci lui suffira pour entrer au paradis. Mais, le mais, il est pour nous. Cette personne, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont parmi les plus véridiques des gens. C'est-à-dire, quand il dit « je vais faire ma salat et mon jeûne », il s'y accomplit de manière sérieuse. Puis, il a posé cette question, il n'est pas dit après qu'il s'en est tenu que à cela. Il a voulu savoir quelles étaient les limites de ce qu'il fallait faire correctement pour entrer au paradis. Ça ne veut pas dire par là que derrière, il ne faisait rien à part cela. Vous comprenez? Et aujourd'hui, si l'un de nous se risquait à s'en tenir qu'aux obligations, déjà quand on regarde, subhanallah, la plupart d'entre nous, qu'Allah nous pardonne, combien de choses illicites nous transgressons. Donc déjà, nous ne pratiquons pas ce hadith correctement. Et même les salawats, les prières. Est-ce qu'on fait les prières comme il se doit, les prières obligatoires? Est-ce qu'on les fait que ce soit de manière apparente ou que ce soit dans notre concentration et dans l'intérieur de la salate, non pas seulement le côté extérieur? Donc la personne, il ne prend pas le risque d'en faire que le minimum. Mais ce type de hadith nous font comprendre l'essentiel. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il faut s'attacher à ces points-là. Puis on rajoute dessus. Subhanallah, on va trouver des gens qui donnent une grande importance à faire des dons partout et ils sont négligents dans la salate. Est-ce qu'il a compris l'essentiel? Non. Il n'a pas compris l'essentiel. Car la salate, c'est un des actes les plus importants en islam. En toute situation, la personne, elle peut faire salate. Il n'a pas d'eau, il peut faire les ablutions sèches. Il ne peut pas se mettre debout, il peut prier assis. Il ne peut pas prier assis, il peut prier sur le côté. Même en pleine bataille, en pleine guerre, il y a la prière en groupe, salat al-khawf, qui est légiférée. Et quand on ne peut pas prier la prière en groupe, Allah Ta'ala dit « Farijalan aw rukban » Priez en marchant ou sur vos montures. Pendant la guerre, hein. Pendant que la guerre fait rage, il est en train de se battre, il prie. Après ça, qui a une excuse pour ne pas faire salat? Il n'y a aucune excuse. Le prochain hadith, الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Le 23e hadith d'après Abu Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. Dire Alhamdulillah remplit la balance. Dire Subhanallah walhamdulillah remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. La prière est une lumière. La prière est lumière. L'aumône est une preuve. La patience est flamboiement. Le Coran est un argument en ta faveur ou en ta défaveur. Chaque jour, l'homme part de bon matin faire commerce de son âme en la sauvant ou en la faisant périr. En la sauvant ou en la franchissant ou en la faisant périr ou en la menant à sa perte. Rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La purification est la moitié de la foi ». On peut le comprendre de deux manières. La purification est la moitié de la foi. Ce qui est voulu ici par la foi, c'est la salat. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Certes, Allah ne vous fera pas perdre votre salat. L'iman ici, ce qui est voulu par l'iman, la foi, c'est la salat. Donc, dans ce sens-là, la purification est la moitié de la salat. Effectivement. Car sans purification, il n'y a pas de salat. Et la purification précède la salat. Le deuxième sens, c'est de dire la purification est la moitié de la foi. C'est-à-dire le fait de purifier son cœur du polythéisme est la moitié de la foi. Effectivement, la foi, elle est composée de deux parties. Al-nafyu wal-ithbat. Le fait de renier et le fait d'affirmer. Quand on dit la ilaha illallah, on renie. La ilaha. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration. Ça, c'est la purification. Illallah al-ithbat. Puis l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça peut être compris aussi dans ce sens-là. Dans le sens où la purification est la moitié de la foi, c'est qu'il y a une partie de négation et de purification de ce qu'il y a dans le cœur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour laisser la place à la foi dans le cœur. Walhamdulillah tamla'u al-mizan. Alhamdulillah remplit la balance le jour du jugement dernier. C'est-à-dire les récompenses juste pour la parole Alhamdulillah, ça remplit la balance. Subhanallah, une parole que pour nous, on considère légère. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Il y a deux paroles qui sont légères sur la langue. Lourdes sur la balance, est très aimé par le miséricordieux, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ces paroles-là, dans lesquelles on évoque Allah, pour nous, elles nous paraissent légères. Effectivement, elles sont légères sur la langue. Mais elles sont lourdes auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, on a du mal à les prononcer fréquemment. Puis, il a dit, subhanallah wa alhamdulillah, remplissent l'espace compris entre le ciel et la terre. C'est-à-dire chacun, chacune des deux paroles remplit l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre. Puis après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des actes en voulant montrer leur importance l'une par rapport à l'autre, en les comparant à l'intensité de lumière que chacun de ces actes représente. Il a dit la prière est lumière, as-salatu nur, was-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve. Et burhan, en langue arabe, ça peut vouloir dire aussi l'éclat qui est autour du cercle solaire. C'est-à-dire la lumière. La salat est une lumière, on pourrait la comparer à la lumière du soleil. La sadaqa est un rayonnement. Donc le rayonnement, sa puissance est moins forte que la lumière elle-même, n'est-ce pas? Was-sabr diya. Et la patience est un flamboiement qui est encore une intensité lumineuse un peu plus faible que le rayonnement. Donc pour montrer que la salat, elle est plus importante que la zakat. Ici, la sadaqa, c'est la zakat. Et que la zakat, elle passe avant le sabr, la patience. Ici, la patience, dans d'autres versions, il a été rapporté que c'est le jeûne de Ramadan, qui est appelé le mois de la patience, n'est-ce pas? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré avec cela que la salat est plus importante que la zakat, et la zakat est plus importante que le jeûne, en montrant l'intensité, en les comparant à l'intensité de lumière de chacun, chacune des lumières qu'il a citées pour chaque acte, sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand il a dit, la patience est un flamboiement, c'est une lumière accompagnée de chaleur, le flamboiement. Sabr al-diya, al-diya, c'est une lumière accompagnée de chaleur. Effectivement, car dans la patience, il y a une difficulté. Pour patienter, pour que cette lumière te soit utile, il faut que tu supportes la chaleur. qu'elle dégage. Cette chaleur, c'est la difficulté qu'il y a dans le fait de patienter en général, et aussi la difficulté quand on jeûne, de patienter sur les choses qui sont interdites à faire pendant les journées de jeûne. Et le Coran sera un argument pour ou contre toi. Il sera un argument pour toi si tu lui as donné de l'importance et que tu l'as mis en pratique. Si tu lui as donné de l'importance, tu l'as lu, tu l'as médité, tu en as tiré des enseignements, tu l'as mis en pratique, tu t'es fait juger par lui, tu as appelé les gens à se faire juger par lui, etc. Tu es une personne du Coran. Il sera un argument pour toi. Si par contre tu t'en es détourné, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dans le sens rapproché, celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire le Coran, ou la religion d'Allah, la révélation. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Il aura une vie misérable. Et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Il va dire, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais auparavant voyant? Il dira, quand mes signes te sont venus, tu les as oubliés, tu les as délaissés. Alors aujourd'hui, toi aussi, tu es délaissé et oublié. Donc, cette personne qui se détourne de la lecture du Coran, de sa compréhension, de son enseignement, de sa mise en pratique, d'y revenir pour se faire juger, alors le Coran sera un argument contre lui le jour du jugement dernier. Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait cité tous ces actes-là, plusieurs actes, leur récompense, leur grandeur, il a rappelé que chaque personne se lève le matin comme un commerçant. Sauf que ce avec quoi il commerce, ce n'est pas de l'or, ni de l'argent, ni des fruits, ni des légumes, ni des semences, ni des montures, ni des maisons. Non. Il commerce son âme. Il va la vendre au diable, la mener à sa perte, ou bien il va la franchir en la menant à son salut. Chaque matin, tu te lèves, tu vas au marché. Le marché de l'au-delà. Le marché des actions. Pas les actions en bourse. Le marché des actions, des actes. Des bonnes et des mauvaises actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a cité. La valeur de la salat, la valeur de alhamdulillah, la valeur de subhanallah alhamdulillah, la valeur de la sadaqa, la valeur du Coran, la valeur de du jeûne. Choisis. Kullu nafsin yaghdu. Kullu nafsin taghdu. Chaque âme, elle va le matin. Kullu nafsin yaghdu. Chaque personne part de bon matin pour faire son marché. Tu vas réussir à affranchir ton âme en faisant des bonnes actions et en t'éloignant des interdits, ou bien tu vas la mener à sa perte. Peut-être que tu ne finiras même pas cette journée. Et le marché sera clos pour toi. Définitivement. Car la mort viendra te chercher avant la fin de ta journée. Ou peut-être que tu vas rentrer le soir, perdant ou gagnant. Et tu vas te coucher, il ne te réveillera pas le lendemain pour retourner encore au marché. Donc chaque jour que tu te lèves, dis-toi que c'est ta dernière chance. chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu te dis c'est ma dernière journée. Comment tu vas agir? C'est peut-être mes dernières heures. Quand quelqu'un sait que c'est ses dernières heures, comment il agit? Quand quelqu'un, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a conseillé quelqu'un, une personne lui a demandé conseil, il lui a dit, quand tu pries, prie comme quelqu'un qui fait ses adieux. C'est-à-dire, tu te lèves pour prier, tu te dis, c'est ma dernière prière. Chaque prière, tu te lèves, Allahu Akbar, tu te dis, c'est ma dernière prière. Je ne sais pas si je vais la finir, cette prière, et je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en prier encore une autre. Est-ce que tu vas penser à tes affaires, où est-ce que j'ai mis mes clés, ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce que j'ai à faire tout à l'heure? Non, tu vas te concentrer dans ta salat. Ce pourquoi Allah t'a créé. De même, chaque matin. Chaque matin, nous allons au marché. Chaque jour, il faut que la personne soit meilleure que le jour d'avant. Chaque jour. Il faut que la personne soit meilleure que le jour d'avant. Si la personne ne réfléchit pas comme ça, il va aller en dégringolant plutôt qu'en avançant et en augmentant. Après, il se peut qu'il y ait des moments de faiblesse, des moments d'épreuve. Ce n'est pas une courbe toujours tangente vers le haut ou vers le bas. Il y a des hauts et des bas. Mais il faut que la courbe générale soit en augmentation. Comme dans le dunya, les gens qui font les marchés financiers, si aujourd'hui la tendance n'est pas à la hausse, il est malheureux, il rentre chez lui, aujourd'hui on n'a pas augmenté. On a perdu, il dit, on a perdu. N'est-ce pas? Alors le musulman, il doit penser encore plus comme ça. Parce que lui, c'est pas l'argent qu'il joue. C'est le paradis ou l'enfer. C'est les degrés dans le paradis. C'est la réussite éternelle ou la perdition éternelle. Il n'est pas en train de jouer un jeu de rôle. C'est pas grave, c'était une partie, on a essayé, on recommence. Game over, on recommence. Il n'y a pas de recommence. Après game over, c'est fini. Il n'y a pas de retour. Il y a un seul essai. Un seul. Cette vie-là. Un seul essai. Tu réussis, tu es parmi les vainqueurs. Tu ne réussis pas ton épreuve, tu n'as pas affranchi ton âme, tu es parmi les perdants. Comme l'âme présente. Si on a compris ça, Wallah et les frères, on ne va pas perdre une minute dans notre vie. On ne va pas s'attacher aux futilités. Les gens qui vont essayer de nous faire perdre du temps dans des discussions futiles, on ne va même pas perdre une seconde avec lui pour lui dire oui ou non. On va marcher. On va l'ignorer. Que dire alors quand on perd notre temps dans le haram? C'est dans la perte pure. C'est pas seulement on perd notre temps. C'est dans le négatif. Dans l'illicite. Ou dans le délaissement de certaines obligations. Là, c'est de la perte sèche. Qu'Allah nous réforme. Nous fasse comprendre la réalité de ce bas monde. Qui n'a pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah. Et la réalité de l'au-delà. Le 24e hadith. الحديث الرابع والعشرون وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عباد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ce hadith qui est un hadith divin, le 24e hadith. Selon Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, relatant les paroles de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement à l'exception de ceux que j'ai mis sur la bonne voie. Demandez-moi donc de vous mettre sur la bonne voie et je le ferai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l'exception de ceux à qui j'ai donné leur nourriture. Demandez donc moi votre nourriture et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus à l'exception de ce que j'ai vêtu. Demandez-moi de vous vêtir et je le ferai. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour. Et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez mon pardon et je vous le donnerai. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort. Vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service. Vous n'y parviendriez pas. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans leur cœur toute la piété du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans leur cœur toute l'impiété du plus impie parmi vous, cela ne diminuerait rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si vos premiers et vos derniers, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur une même terre, si tous me demandaient quelque faveur, et si je la donnais à tous ceux qui la demandent, cela ne diminuerait en rien ce que j'ai, pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée par cela. Ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me charge de vous les comptabiliser, puis de vous en rétribuer. Que celui qui trouve du bien adresse les louanges à Allah. Quant à celui qui trouve une autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith Qudsi, hadith divin, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala commence en disant « Oh mes serviteurs ». Les serviteurs d'Allah sont de deux types. Les premiers qui sont tout le monde, celui qui a accepté d'être serviteur ou celui qui n'a pas accepté. Qu'il le veuille ou non, il est un serviteur d'Allah. Et le deuxième type, c'est ceux qui ont accepté de se soumettre. Les serviteurs pieux, croyants. Donc Allah s'adresse à ses serviteurs en général, en disant qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice et qu'il l'a rendue entre nous interdite. Donc l'injustice est interdite, premièrement, parce qu'Allah, qui est capable de toute chose, dont rien ne réduit à l'impuissance, il s'est interdit lui-même l'injustice. Donc si pour Allah, qui est capable de toute chose, et que rien ne réduit à l'impuissance et à la faiblesse, l'injustice est interdite, alors que dire pour nous les hommes, impuissants, faibles? C'est encore plus interdit. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé cela en disant, je l'ai rendu interdite entre vous. Je l'ai rendue interdite entre vous. Donc, l'injustice est interdite en islam. Que ce soit avec l'ami comme avec l'ennemi. Que ce soit avec les êtres, avec les humains ou les animaux. Que ce soit avec les êtres vivants ou même avec les êtres inanimés. Toute injustice est interdite en islam. Toute injustice. L'islam est venu combattre l'injustice. Et la plus grande injustice est l'associatrie, le shirk. Car Allah nous a créés et a créé toutes choses et voilà qu'on lui donne des associés. Ça, c'est la plus grande des injustices. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a cité que toute personne était égarée sur ceux qu'Allah a guidé. Alors, il a dit, demandez-moi la guider. C'est-à-dire, faites les causes pour suivre la guider. Parmi ces causes, il y a le fait, bien sûr, de suivre la révélation, de faire des efforts de comprendre le Coran et la Sunna et de les pratiquer. Et il y a aussi l'invocation, le fait de demander à Allah de nous guider. De même, concernant la nourriture, c'est-à-dire que la nourriture est écrite et c'est Allah qui la donne, cela ne sert à rien d'aller la chercher dans le haram. Allez la demander dans les causes licites. Et demandez-la à Allah, invoquez Allah qu'il vous donne une nourriture saine, pure. De même pour les vêtements. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé que tous les fils d'Adam font des péchés. Tout le monde fait des fautes. De nuit comme de jour. Ça, c'est la nature humaine de fauter. Mais le croyant pieux, à la différence du pervers, il essaye de faire les maximums de causes pour ne pas tomber dans la faute. Et puis s'il y tombe, il regrette. Et il se repent rapidement. L'erreur, le péché, c'est humain. Mais la personne pieuse, il s'en éloigne. Et si malgré cela, il s'est fait piéger par Shaitan, il demande pardon et il se repent et il revient au droit chemin. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. La demande de pardon, elle est obligatoirement liée au repentir, c'est-à-dire au délaissement du péché et au regret de l'avoir commis. Au délaissement du péché et au regret de l'avoir commis. Il n'y a aucun intérêt à être dans le péché et dire Astaghfirullah, Astaghfirullah et continuer. Si tu dis Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, c'est-à-dire que tu délaisses ce péché. Tu t'en éloignes, tu regrettes de l'avoir fait. Donc la demande de pardon doit être accompagnée du regret et de l'abandon du péché. Sinon ce n'est pas une demande de pardon réelle, c'est juste avec la langue. C'est une demande de pardon avec la langue, mais qui n'est pas suivie par une demande de pardon avec le cœur et avec les actes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que quoi que l'on fasse, on peut ni lui nuire, ni lui faire du bien. Que le fait que les gens obéissent à Allah, qu'ils soient pieux, ce n'est pas pour faire du bien à Allah. C'est pour notre bien à nous. De même que en faisant les péchés, on ne fait pas du mal à Allah. On ne lui nuit en rien, subhanahu wa ta'ala. On ne lui nuit en rien. Donc, que l'on fasse du bien ou que l'on fasse du mal, ce n'est que pour notre intérêt ou notre défaveur. En rien on ne nuit à Allah et en rien on ne lui rajoute dans sa royauté. C'est pour ça que, ici dans le hadith Qudsi, Allah Ta'ala dit, si vous aviez tous le cœur comme le plus pieux d'entre vous, comme le cœur du plus pieux d'entre vous, cela ne rajoute rien à mon royaume. Rien. Et si vous tous, vous avez le cœur le plus impie comme le plus impie d'entre vous, cela ne diminue rien à mon royaume. De même que si tous les hommes, tous les djinns se réunissaient pour demander à Allah tout ce qu'ils voulaient, sur un même endroit, et Allah leur exaucerait tous leurs vœux, cela ne diminuerait rien de ce qu'il y a auprès d'Allah. Rien. Que comme une aiguille qui est plongée dans la mer, elle est retirée. Qu'est-ce qu'elle en retire? Elle en retire rien. Même la goutte qui est dessus, elle retombe dans la mer. C'est pour montrer qu'Allah Ta'ala est le riche. Il se passe de l'univers. Et c'est nous, ce sont nous les pauvres, les manquants, les faibles, qui avons besoin d'Allah et de son aide. C'est pour ça qu'il a fini, ce ne sont que vos actions que je compte pour vous. Pour vous en rétribuer de la meilleure manière, avec justice. Celui qui trouve du bien, qui remercie Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même, car c'est lui qui aura choisi de faire le mal. Et la rétribution n'est qu'avec justice. Allah n'est pas injuste car il s'est interdit l'injustice, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah Ta'ala dit ici, celui qui trouve un bien, qu'il remercie Allah. On peut le comprendre de deux manières. Qu'il trouve un bien dans ce monde, c'est-à-dire qu'Allah lui donne certaines bénédictions suite à ses bonnes actions. Qu'il remercie Allah. S'il trouve des difficultés qui sont les effets de ses péchés, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. La deuxième compréhension, c'est dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Quand il va arriver et il aura la rétribution complète de ses actes, s'il trouve un bien, il remerciera Allah. Et s'il trouvera un mal, cela ne sera que ce que ses mains ont acquis. Ce qu'il a acquis de ses propres mains. Alors il ne s'en prendra qu'à lui-même. والله تعالى أعلم وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.